Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous. Merci David de me rendre l'antenne. Je te la rendrai à mon tour tout à l'heure après l'émission, comme tous les jours. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, c'est qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, nous recevons Egalaldia, une association de protection de la nature qui nous vient d'Ustaritz. Nous avons notre studio Stéphane Maury, responsable capacitaire, et Océane, assistante de direction. Bonjour tous les deux, comment allez-vous?
Bonjour. Bonjour, très bien.
La route n'a pas été trop longue, ça va?
Non, très rapide.
Très bien, moi. Alors, on va passer une petite heure ensemble, on va vous découvrir et votre structure, c'est son actualité aussi, s'il y en a une, et ses projets, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. On va parler de nature et d'animaux sauvages, voilà, c'est sympa. On va d'abord écouter le flash info national et international, ça c'est moins sympa en général. Et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. Et nous voilà de retour avec Océane et Stéphane, donc qui représentent l'association Egalaldia, qui nous vient d'Ustaritz. La tradition, c'est qu'on commence l'émission, on va faire une petite présentation, une petite bio, une petite trajectoire personnelle de nos invités, pour avoir une idée du chemin de vie qu'ils ont parcouru pour arriver à ce jour, à ce micro. Et bien entendu, on va commencer par Océane, si elle veut bien nous parler un petit peu d'elle.
Oui, merci. Écoutez, moi j'ai débuté ma carrière dans le recrutement spécialisé sur les métiers du développement durable et de l'innovation sociale après un master en développement durable. J'avais un parcours assez classique et j'avais envie d'y donner du sens. Et au cours de cette expérience, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs sociaux, d'entreprises engagées. Et je me suis dit que voilà, ma carrière, ce serait sur un métier classique, mais avec du sens pour moi. Mmh. J'ai évolué dans plusieurs entreprises en conduisant le changement, notamment le changement de développement durable, puisque changer ses pratiques, ce n'est pas toujours simple.
Et non.
Voilà, et les ressources humaines sont là pour ça. Donc, j'ai occupé plusieurs postes de direction en ressources humaines. Je suis devenue consultante à mon compte pour accompagner des acteurs différents, notamment le secteur associatif et tout le secteur de l'ESS, sur des problématiques RH très classiques. Mmh. Et à cette occasion-là, j'ai rencontré Egalaldia. Et pour moi, c'est l'aboutissement d'une volonté et de sens et de pouvoir apporter mes compétences. Mmh. En faveur de la biodiversité et de la faune sauvage, et puis accessoirement de rejoindre une équipe de passionnés. Donc ouais, voilà, c'est
d'accord,
super chouette.
Très bien, mais ça donne du sens aux choses. Merci beaucoup. On va se tourner vers Stéphane.
Oula, moi c'est une longue histoire, hein, donc on va prendre le temps là. Je pense que l'heure d'émission va y passer. Moi, ma première expérience professionnelle, c'était dans les années 90, et je bossais pas du tout dans les mêmes odeurs. Je bossais pour la maison mère Nina Ricci, donc parfum haute couture.
Ah oui, effectivement.
Pendant 6 ans, mmh, dans une boîte renommée nationale et internationale. Mmh. On va dire au bout de 6 ans, j'avais vite fait le tour du sujet. Donc je suis reparti en Bretagne. Mmh. Et là-bas j'ai fait 22 métiers différents. J'ai travaillé aussi bien avec des ostréiculteurs, des maraîchers, des agriculteurs. J'ai retapé des maisons. Mmh. Donc j'ai une vision globale aussi de la société et
oui,
des
voilà,
gens
ouais,
avec leurs différentes professions et problématiques qui vont avec la profession. Et maintenant, ça m'aide aussi dans mon rapport avec pour défendre la biodiversité, parce que je sais ce que les contraintes que peut avoir le monde agricole,
oui,
les contraintes de la chasse et tout ça. Et moi, je suis un pur produit de la marée noire de l'Erika.
D'accord.
En 2000, il y a eu le bug de l'an 2000 pour nous, hein, le pétrolier qui s'est scratché en Bretagne.
Et oui, on s'en souvient, ouais.
Je suis parti aider et j'en ai fait mon métier.
Oui.
Et j'ai monté déjà un premier centre en Bretagne. Et en 2003, je suis descendu au Pays Basque pour la marée noire du Prestige. Mmh. Et là, on m'a demandé de développer le projet Egalaldia. Egalaldia, c'est en basque.
Oui.
Ça veut dire l'envol.
Ouais, c'est ce que j'allais vous demander.
Voilà.
Ouais.
C'est une image pour l'animal qu'on a soigné. Pour un oiseau, on lui rend son envol, on le renvoie à la nature.
Et, oui,
et c'est un métier totalement passionnant. C'est la première fois que je reste... ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce métier. Les autres, je les faisais 6 mois à 1 an. Mmh. Parce qu'on peut aussi bien faire du lien territorial, de la politique, de la défense de l'environnement. Mmh. Tout est dans la défense de l'environnement, tout est politique, de toute manière. Mmh. Donc, très enrichissant humainement et personnellement.
Très bien, ben merci, voilà. C'est intéressant. Alors, on va parler de Egal Aldia, du coup, cet envol, c'est quoi son histoire, cette association, ça date de quand, ça a été créé, ça a changé depuis le début quand même, parce que je crois que ça fait pas mal de temps que ça existe maintenant.
Oui, elle a été créée fin 99, vraiment c'était une équipe de passionnés qui avait monté un tout petit centre dans un garage avec deux volières. Au départ, c'était axé vraiment pour les vautours, et ça a commencé à se développer après mon arrivée en 2003, après la marée nord du Prestige, où là, en ayant fait tous les oiseaux marins et tout ça, parce que nous, quand on descendait de Bretagne, c'était une spécialité, le piaf mazouté en Bretagne.
Ben oui, c'est ça. De toute façon, on a tous en tête, alors moi j'ai les souvenirs d'images à la télévision d'oiseaux mazoutés. C'est la première fois que je voyais la galère que c'était pour essayer de les nettoyer sans les tuer. Enfin, ouais, voilà,
la galère, le mot est faible, hein, ouais. Le pur enfer.
Ouais, j'imagine, ouais. Voilà.
Et puis voilà, depuis 2003, ça se modernise, l'équipe s'est agrandie, le volume d'animaux traités, soignés, ça augmente aussi. Et là, on rentre dans une nouvelle phase où, grâce à un financement européen, on va enchaîner 18 mois de travaux à Egal Aldia pour encore moderniser la structure.
Ah oui, d'accord, parce que c'est quand même, genre, moi j'ai vu les photos, les documents qu'il y a sur votre site web, le plan, etc. Ça a l'air quand même déjà relativement grand. C'est vrai qu'il ne faut pas s'y tromper, on va le dire de suite, c'est pas un parc zoologique, un truc à visiter. On dit, oh, c'est sympa, il y a une volière avec, si, il y a les animaux. Non, c'est vraiment pas à but touristique du tout. Hein. Ça, il faut le dire.
Non, pas du tout. Si on devait comparer, c'est un hôpital.
Ouais.
Avec toute sa phase de soins intensifs pour les animaux. Et après, il y a les phases de réhabilitation. Un vétérinaire va faire du soin. Mais nous, sur la faune sauvage, on va faire le soin plus la réhabilitation. Les animaux qui doivent réapprendre à voler, avoir des comportements... qui correspondent à leur comportement dans la nature. Donc la structure s'étend sur un hectare à l'heure actuelle, avec des dizaines d'enclos et de volières adaptées à chaque espèce qu'on soigne sur la structure.
Oui.
Non, c'est pas visitable. Et en même temps, souvent les gens pensent que les écolos ont fait un petit peu ce qu'on veut. C'est hyper réglementé.
Oui.
On travaille avec des espèces protégées, des espèces en déclin. Donc on est géré par des têtes de loi et on doit rendre des comptes à l'administration française contrôlé comme tout le monde.
Oui, voilà, c'est ça. Alors déjà, le terme écolo, effectivement, bon voilà, il est devenu péjoratif.
Je l'aime pas.
Il est devenu péjoratif, c'est assez étonnant, je dirais. Bon, voilà, c'est comme ça.
Parce qu'un chasseur peut être écolo, tout le monde peut être écolo à l'heure actuelle, ça a plus de sens.
En fait, il faudrait pas qu'il y ait que des écolos, mais que ce soit juste une composante de toutes les influences politiques, en fait. Voilà, ça va te mélanger avec tout le reste. On ne peut pas être que écolo, ni que ça va faire partie de la vie, de qu'on le veuille ou non.
L'écologie ou la protection de l'environnement, ça doit être une action de chaque citoyen, quel que soit son bord politique ou ses activités.
C'est ça, c'est ça.
C'est notre bien commun à tous.
Bien sûr.
Ce qu'on va léguer à nos enfants, donc... voilà, soyons cohérents, soyons sérieux, essayons de faire le job tous ensemble pour garder cette biodiversité. Et ici, les Landes, et puis pour nous, le Pays Basque, qu'est-ce qu'on a comme chance d'avoir cette biodiversité-là, ce qui n'est pas le cas une grande majorité de la France à l'heure actuelle.
C'est vrai que ça m'est arrivé l'an dernier en vacances en Haute-Savoie, et j'étais assez étonné en me baladant. Du manque de son d'oiseau. Je me dis, tiens, mais c'est dingue, c'est vachement plus silencieux que moi quand je me promène dans les Landes. Donc, je sais pas si c'était une impression ou si c'est un fait.
Après, dans les Landes et le Pays Basque, il y a beaucoup de chanteurs déjà humains, donc je pense que ça motive toute la faune aussi. Il y a une culture. Souvent dans d'autres régions de France, les forêts sont relativement silencieuses.
C'est triste en fait, parce que ça fait vraiment partie de. J'aurais du mal à imaginer un monde sans chant d'oiseau. Les forêts sans oiseaux, enfin, ce serait vraiment, vraiment dommage.
Si on continue comme ça, on peut y arriver.
Ben oui, je sais.
Malheureusement.
Ouais. Déjà avec les insectes, ça commence déjà par les insectes et les plantes, les insectes et les oiseaux, tout est en boule de neige.
Ce que vous voyez en vous promenant et tout ça, nous, il y a ce qu'on voit sur nos centres de soins.
Bien sûr.
On fait analyser beaucoup d'animaux qui meurent chez nous pour les accumulations de pesticides, de métaux lourds et tout ça.
Oui.
On n'a plus aucun rapport des laboratoires qui nous disent que l'animal est sain.
Oui.
Les animaux qui ont plus de polluants en eux sont les hérissons.
Oui.
Parce que le hérisson est... Quand il mange, il est sur les premiers centimètres du sol. Oui. Et c'est les couches les plus polluées. Mmh. Le hérisson, certains, je schématise, mais on pourrait les considérer comme des déchets toxiques tellement qu'ils ont d'accumulation de métaux lourds et de pesticides sur eux.
C'est un peu le cas comme certains poissons de fond, comme les anguilles, etc. Et tout. Normalement, ça concentre un peu tous les choses qui sont toxiques pour nous, en fait. Si ça pouvait leur permettre de survivre en disant qu'on ne devrait pas les manger, c'est peut-être ça pourrait leur servir, mais je ne sais pas si c'est un argument pour le sauver leur vie, malheureusement. On va déjà faire une petite pause musicale et on va ensuite attaquer la deuxième partie de cette émission. Il y a pas mal de choses à dire. À tout de suite. Allez, c'est reparti. Alors, bonne nouvelle, mais tout le monde le savait, c'est le printemps. Eh oui. Et donc, c'est une saison un peu particulière où la nature foisonne. J'imagine que, bien entendu, dans vos activités, il y a une forme de saisonnalité et que chaque saison a une charge particulière. J'imagine que celle du printemps elle doit être particulière aussi.
Oui, effectivement, l'association vit au rythme de la nature et le printemps, c'est la période de reproduction. Chez nous, c'est une saison haute qui part de mi-avril à peu près. C'est la nature qui le dicte jusqu'à fin septembre, mi-octobre et qui va évoluer en fonction des espèces qu'on va accueillir. Par exemple, voilà, sur la fin de la période, ça va être la saison des vautours. Là, on est en plein dans la saison des juvéniles qui sont en train d'apprendre.
On voit dans les prés les petits veaux notamment.
Exactement.
Ils sont tout mignons. Ouais.
Et pour la faune sauvage, c'est la même chose. Mmh, donc, on a les petits honnis qui peuvent aussi, par exemple, descendre et apprendre à voler. L'oiseau n'est pas encore complètement autonome. Il est parfaitement suivi par ses parents et c'est son rythme biologique tout à fait naturel.
Oui.
Mais l'humain a tendance à se déconnecter de ce vivant, à avoir oublié comment ça fonctionne.
Et, oui.
Et par un élan d'anthropomorphisme, de vouloir sauver tous les oisillons qu'il trouve. Donc un oiseau au sol qui ne vole pas n'est pas forcément un oiseau en difficulté et c'est voilà, d'une manière générale pour les juvéniles, même petits mammifères, ce serait la même chose. Donc ce qu'on conseille quand on se retrouve face à la faune sauvage, voilà, on soigne la faune sauvage en détresse, mais on a aussi beaucoup d'humains en détresse face à cette faune sauvage en détresse.
Oui.
Donc les conseils qu'on peut donner pour agir au mieux, la première chose à faire, ce serait de contacter un centre de soins. Puisque le métier de soigneur, c'est un métier avec tout un tas de compétences et d'expertise à avoir et on ne peut pas s'improviser soigneur. Donc la première chose à faire, c'est de contacter le centre de soins le plus proche de chez vous pour avoir les bons conseils et savoir comment agir. Ensuite, donc évidemment, la personne va vous guider. Si toutefois le centre de soins est trop occupé, puisque là pour nous c'est un pic d'activité, la meilleure chose à faire c'est de récupérer l'animal, de le mettre dans un carton qui sera préalablement percé de trous au calme et voilà, de limiter l'imprégnation, c'est-à-dire le fait que l'animal va s'attacher à l'homme.
Oui, oui.
Égal à le dial, l'une des valeurs principales qu'on défend, c'est que la faune sauvage est et doit rester sauvage.
Bien sûr,
et nous, on réussit notre mission quand on peut réintroduire et réhabiliter l'espèce dans son milieu naturel.
Oui, bien sûr. Alors, vous parlez de centre de soins, c'est l'occasion de parler de Paloum, hein, parce que c'est vrai qu'ils sont pas loin, ils sont dans les Landes et forcément, vous travaillez main dans la main parce que votre objectif est le même.
Oui, oui, basque et landais, on travaille ensemble sans problème.
C'est pour ça que vous êtes là.
Voilà, on travaille énormément avec le centre Paloum qui est à côté de Mont-de-Marsan, à Puy-de-Sault.
Voilà.
Une jeune équipe très performante et c'est vrai que le secteur de Dax et les environs, c'est un peu à cheval entre les deux structures. Donc, suivant les appels téléphoniques, on va renvoyer le requérant sur Paloum ou Paloum les renvoie sur nous, suivant les espèces. Et une des difficultés qu'on peut avoir pour couvrir ce territoire, c'est d'avoir des bénévoles rapatrieurs. Souvent, les gens, ils vont découvrir des animaux, mais ils n'ont pas le temps de les amener sur le centre de soins. Et, tout ça. Et nous, dans les centres de soins, on a tellement d'animaux à soigner qu'on n'a pas le temps d'aller chercher les animaux.
Oui.
Donc on cherche des bénévoles, on fait des formations sur nos structures où les bénévoles après vont chercher chez particuliers ou les vétérinaires dépôts, parce qu'il ne faut pas oublier, on a énormément de vétérinaires qui nous aident aussi sur le territoire. Et c'est les bénévoles qui font le circuit, on va dire, pour aller récupérer les animaux et déposer sur les centres de soins. Donc là, les deux centres, Paloum et Egaladia, à l'heure actuelle, on recherche des bénévoles
animales pour faire les rapatriements d'animaux sur nos structures.
Oui, c'est vrai que ça demande une compétence qu'on n'a pas forcément. Même moi, j'avoue, si je trouve un oiseau, par exemple, je vais me dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, le récupérer sans lui faire peur, sans lui faire mal, avec toujours une petite appréhension par rapport à la possibilité d'une contamination. Parce qu'on n'en a pas parlé des maladies, mais
c'est on va tous mourir.
Non, mais ça, je sais.
À un moment ou un autre.
Mais la fièvre aviaire, la grippe aviaire, c'est pas tellement pour moi que je m'inquiète, mais c'est pour aussi la dissémination du virus, etc. Est-ce qu'il y a aussi des
alors, il y a des protocoles, il y a des consignes. Dès qu'on rentre, on travaille avec les services de l'État, avec la préfecture et les services vétérinaires. Dès qu'il y a, de toute manière, il y a une maladie hautement contagieuse, là, toutes les procédures sont revues. Là, c'est quand il y a la grippe aviaire, c'est les services de l'État qui vont récupérer les animaux. Les secteurs sont bouclés. Il n'y a plus du tout de déplacement d'animaux sauvages. Donc là, en cas de crise, il y a toujours des process mis en place. C'est pas un bénévole lambda, on va dire, qui va ramener une grue avec la grippe aviaire dans sa voiture en lui faisant des bisous, quoi. On est au courant de toutes les maladies. Donc c'est vrai que quand il y a un pic, là les procédures sont complètement différentes.
Alors sur votre site internet, effectivement, donc il y a un numéro de téléphone. Voilà, c'est vrai que le réflexe c'est d'appeler. Donc il y a aussi un petit un tuto, un guide. Ben voilà, SOS animal en danger. Qu'est-ce que je dois faire? Donc tout ça c'est un peu expliqué sur votre site web. Qu'est-ce qui se passe si je vois alors? On va parler des oiseaux parce qu'il y en a beaucoup, ça se voit souvent, mais bon, autre animal, sur votre site web, il y a une démarche à suivre, hein, il me semble.
Ouais, il faut déjà, il faut pas s'emballer. Souvent, l'émotion va prendre le dessus et les gens voient un animal, comme disait Océane, supposé en difficulté. Déjà, il faut prendre le temps d'analyser la situation. Est-ce que c'est au bord de la route un animal qui aurait pu être tapé par une voiture? Est-ce que c'est un jeune qui apprend à voler? Donc déjà, ou des gens qui vont s'arrêter sur l'autoroute même pour attraper un animal. Donc là, déjà, ils mettent leur vie en jeu. C'est d'analyser la situation. Si on a un doute, c'est contacter les centres de soins, aussi bien Paloum que nous, et d'envoyer une vidéo. Nous, à la vidéo, peut vous dire au comportement si c'est un jeune individu qui... juste en apprentissage, un animal en difficulté. S'il est en difficulté, on peut vous expliquer le process, comment l'attraper, tout
d'accord,
ça.
Ouais.
Mais à l'heure actuelle... Là, une chose qui est certaine, pour les gens qui vont se promener en forêt, si vous voyez un jeune chevreuil, un faon, il n'est pas en difficulté, ne le ramassez pas, ne le mettez pas sur votre canapé chez vous, c'est un animal qui sera condamné, parce que les jeunes chevreuils s'imprègnent énormément, et la femelle ne reste pas à côté de son petit. Moi j'ai eu le cas l'année dernière d'une dame qui me dit on était en forêt, on est resté à côté du faon, la femelle n'est pas venue le chercher.
Bah évidemment, si on est à côté du faon, elle n'allait pas venir.
C'est ça,
c'est sûr,
la femelle est toujours à quelques dizaines de mètres, elle surveille son petit, mais elle n'est pas à côté. Donc voilà, il y a une perte de connaissance du fonctionnement de la biodiversité. Donc voilà, prendre son temps et contacter les centres qui vous guideront.
Très bien. Alors, on va faire une deuxième pause. Alors on va écouter le flash info local. Alors, il y a des infos qui n'est pas très marrant par rapport aux animaux, notamment je ne sais pas si vous avez entendu à Tarnos, des gens qui sont amusés à tuer, à massacrer des brebis. Bon voilà, chacun s'amuse comme il peut, c'est formidable. À tout de suite. Voilà, de retour avec Océane et Stéphane. Alors on a parlé de certains animaux, etc. Donc est-ce qu'on peut avoir un peu une idée justement de quels sont les animaux qui passent entre vos mains à Egalaldia?
Oui. D'ailleurs, on n'a pas reprécisé ce que c'était capacitaire.
Et ah oui, c'est vrai.
Oui. Partir de là.
Ne présentez donc capacitaire. Qu'est-ce donc que capacitaire?
Ah, un grand mystère.
Alors, responsable capacitaire. Bon, dans le jargon, le capacitaire, c'est une autorisation administrative de détention d'espèces protégées.
D'accord.
Alors, on passe différentes commissions, il faut prouver de nos connaissances en termes de biologie, de soins, de réglementation, de réhabilitation. Bon, c'est un truc un peu long.
Oui, oui.
Mais c'est une autorisation administrative qui me donne l'autorisation de détenir des espèces protégées.
Oui, bien sûr. Et comme on l'a dit, c'est très réglementé tout ça. Et c'est pas plus mal, je pense.
C'est pas plus mal.
Hein, parce qu'il y a quand même pas mal de trafic d'animaux vivants qui sont assez scandaleux.
Oui, mais un petit message aussi pour des fois ceux qui sont un peu contre les écolos, qui pensent qu'ils font ce qu'ils veulent. Nous aussi, on est contrôlés. Nous aussi, on a des gros pavés administratifs à remplir. On est comme tous citoyens. On doit rendre des comptes à l'administration et dans nos activités.
Très bien.
Et donc je reviens sur ta question par rapport aux animaux, mais oui, le certificat de capacité, c'est par espèce. Donc on a la chance, d'accord, chez Egalaldia d'avoir un centre qui a deux capacitaires, mmh, sur le centre, et donc qui peut détenir une grande variété, mmh, d'espèces. Egalaldia accueille tous les oiseaux qui vont du passereau jusqu'au vautour, mmh, en passant par les rapaces diurnes, etc. On est d'ailleurs référent national sur le gypaète barbu,
oui,
donc une espèce APNA. Mmh. Voilà, et on a participé à des programmes de réintroduction pour le vautour fauve, notamment en Bulgarie, mmh, et dans le Vercors.
Oui.
Donc on accueille tous les oiseaux, on accueille ensuite les mammifères de moins de 12 kilos. Dans cette catégorie-là, on va retrouver les hérissons. Mmh. Egalaldia, c'est entre 700 et 800 hérissons par an ces, mmh, dernières années. Mais on va trouver aussi des animaux comme, enfin des petits mammifères comme l'écureuil, ou les plus gros animaux qu'on va avoir sur le centre en termes de mammifères, ça va être le blaireau ou le renard.
Oui.
Et ensuite, on va s'occuper de tous les reptiles hors serpents. Donc, mmh, là-dedans, on va retrouver par exemple des tortues d'eau comme la Cistude d'Europe, où on va retrouver des lézards. Je précise qu'on s'occupe de la faune sauvage, oui, c'est-à-dire, voilà, qu'on ne s'occupe pas de la faune domestique, ni, mmh, les chiens, ni les chats, ni les nacs. Et on ne s'occupe pas non plus des espèces exotiques qui rentrent sous couvert d'une autre législation pour, oui, laquelle, et voilà, Egalaldia ne détient pas d'autorisation pour avoir ces espèces sur le centre.
Ou alors les nacs, c'est les nouveaux animaux de compagnie, hein, je précise, hein, parce que c'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a une mode, des fois, c'est vrai que je comprends qu'on puisse avoir cédé à l'envie d'avoir un animal un peu inhabituel.
Un chinchilla.
J'ai même vu des gens sur Internet qui ont des tatous ou des trucs comme ça, enfin des animaux tellement improbables. Voilà. Alors déjà, c'est souvent interdit, en fait. C'est souvent, ils se les procurent d'une manière qui est pas normal, hein, puisque il y a une législation, puis ensuite bon, ils sont vraiment pas faits pour ça, les pauvres, hein.
Et après on les retrouve dans la nature et ça peut devenir voilà, des espèces invasives,
oui, les tortues de Floride, voilà, par exemple, hein, parce que j'en ai vu des énormes à Orx, hein, des très grosses,
oui, il y en a des très très belles, oui. Et je voulais rassurer le monde agricole quand Océane a parlé du blaireau, parce que je sais que le blaireau fait grimper quand même le monde agricole avec la tuberculose,
oui.
Alors on fait du soin, mais on fait aussi une veille sanitaire. C'est-à-dire que dès qu'on trouve des maladies, des cas comme ça, les services de l'État sont prévenus. Donc dans cette zone-là, on a trouvé un animal avec la tuberculose ou les choses comme ça. On reste vraiment, on fait du soin, mais on a aussi un rôle de vigilance, de suivi des épidémies, de l'évolution des épidémies aussi.
Oui.
Donc c'est pour ça que nous, Egalaldia, on travaille
le
aussi...
travail scientifique.
Voilà, scientifique, et un travail aussi avec le monde agricole, parce que pour nous, le Pays Basque, s'il n'y avait pas d'éleveurs, une grosse partie de la biodiversité viendrait à disparaître.
Oui, oui.
Elle est tellement dépendante du pastoralisme. Et là, nous, notre mot d'ordre depuis des années, c'est... protégeons nos éleveurs, faisons de manière à ce qu'ils gagnent leur vie, parce qu'ils sont garants d'une certaine biodiversité aussi sur la chaîne des Pyrénées.
Oui, bien sûr, on peut imaginer qu'il y ait certaines espèces de moutons, etc., qui ne seraient peut-être pas dans le même état s'il n'y avait pas des gens qui les faisaient vivre dans la montagne, je ne sais quoi.
Les biotopes qui sont créés par le pastoralisme sont très favorables à de nombreuses espèces en faune et en flore.
Alors, vous avez bien sûr beaucoup d'oiseaux. Cet hiver, on a beaucoup parlé de ces pauvres macareux. Je suppose que vous avez aussi vous avez dû avoir un gros pic d'activité par rapport à ça, avec les saisons des tempêtes qu'on a eues cette année.
Peut-être je laisserai Stéphane répondre, mais pour introduire Egalaldia, ce dont on n'a pas parlé, donc Egalaldia, c'est un des programmes, c'est le centre de soins, c'est à peu près 3000 animaux par an, donc pour se rendre compte un petit peu du volume, et ce qui me permet d'expliquer, donc sur la crise des macareux moines, on a, Stéphane, tu me corriges, 1300, 1250
1270,
voilà, individus accueillis sur le centre en l'espace de 3 semaines, ce qui donne une idée du volume par rapport à ce qu'Egalaldia traite habituellement.
Et alors voilà. Combien pour vous occuper? Alors, qui techniquement, fondamentalement, exactement, qui, en termes de moyens humains, qui est-ce que vous avez sous la main pour gérer tout ça, en fait? Parce que ça semble insurmontable.
Beaucoup de bénévoles. De bénévoles qui sont venus d'un petit peu partout. À Egalaldia, on forme aussi de nombreux jeunes. Et plein de jeunes qui étaient passés chez nous pour des stages ou des formations, quand ils ont vu le volume d'animaux, ils sont arrivés d'un peu partout en France. On a eu un bel élan. Donc ça a été 3 semaines assez intensives. Et surtout, on a eu 4 jours où les accueils étaient entre 150 et 200 par jour. une grande majorité arrivait mort.
Oui,
ah, ouais, il faut pas. Ouais. Et la réhabilitation des oiseaux marins, c'est ce qu'il y a de plus dur. Parce qu'il faut les hydrater, bon, ils sont en hypothermie, il faut les réchauffer avant de pouvoir les nourrir, il faut les hydrater. Après, il y a la réhabilitation en piscine pour qu'ils reprennent de l'étanchéité. Donc, sur le chiffre global de plus de 1200, on va dire qu'il y en a plus de 600 qui sont arrivés morts sur la structure. Il faut pas oublier qu'ils avaient perdu certains la moitié de leur poids. Et on a réussi. Pour nous, c'est un chiffre extraordinaire parce que ça n'a jamais été vu, mais on a réussi à en sauver 147. Mais quand on voit le travail, quand on connaît le travail qu'il faut pour sauver un oiseau marin, ça reste un chiffre quand même relativement important.
Oui.
Pour les gens, ça peut choquer, mais pour notre profession, oui,
c'est un bon chiffre.
Ça a été un beau challenge.
Et
j'ajouterais également qu'on a pu s'appuyer aussi sur le grand public. On a la chance d'avoir des personnes très attachées à leur territoire, des gens qui ont fait des rondes le soir, qui se sont organisés, qui ont créé des groupes WhatsApp, ce qui pour nous a été formidable, puisque là, on a eu l'espace de quelques semaines un terreau Stéphane parlait tout à l'heure des rapatrieurs, donc moi j'appellerais ça des ambulanciers.
Ouais, les ambulanciers,
en fait, il faut vraiment, quand on trouve un animal en détresse, l'amener le plus vite possible en soins. Et là, on a pu bénéficier aussi de cet élan du grand public qui a été un grand soutien aussi.
Des communes aussi. La commune de Cap-Breton, toutes les communes de landaises et du Pays Basque ont mis à disposition du personnel, du matériel, et tout ça. Donc, mais ce que je tiens à rassurer tout le monde, parce que nous, on connaît la biologie des espèces. La population de macareux ne va pas disparaître à cause de ce phénomène-là. On l'a déjà connu en 2014. C'est des phénomènes cycliques. Là, à l'heure actuelle, les données sur les colonies de reproduction anglaises et tout ça sont très bonnes. La majorité des oiseaux qui ont été impactés, c'était des jeunes macareux, des jeunes entre 1 et 3 ans. Et c'était un cumul de phénomènes. Il y a eu la tempête Niels et tout ça, mais ça a été très peu dit dans les médias ou dans les publications. Une grande majorité des oiseaux étaient en période de mue.
D'accord.
Donc, ils étaient en train de renouveler leurs plumes.
Ah oui.
Donc, les capacités de vol, les capacités de plongée étaient diminuées. C'est-à-dire que la tempête serait arrivée 3 semaines après.
Ce serait pas le même
ou 3 semaines avant.
D'accord. Ouais.
On aurait eu que quelques macareux qui se seraient échoués, mais pas ces volumes-là.
Ouais.
Donc c'est un cumul de phénomènes à l'instant T qui a fait que on a eu ces échouages importants sur le littoral.
Ouais. Bon, c'est vrai, je crois qu'on a beaucoup parlé du macareux. Bon, il a peut-être un statut particulier au niveau du grand public. C'est le symbole de LPO aussi. Enfin bon, voilà. Mais c'est quoi votre problématique en fait en ce moment, si je devais vous demander, c'est quoi le gros problème que vous avez à gérer? Quelle espèce en particulier, c'est quoi vraiment le gros souci actuellement?
Là, en ce moment, c'est principalement les jeunes passereaux, donc les petits moineaux, les mésanges et tout ça qui sortent du nid et que les gens pensent qu'ils sont en difficulté parce qu'ils sont en apprentissage de vol. Donc là, ils ramassent pour un oui, pour un non. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En réelle difficulté, c'est toujours compliqué d'expliquer aux gens, il apprend à voler, laissez-le. Souvent, les gens nous disent, oui, mais bon, moi, j'ai mon chat. Donc, on leur dit, gardez votre chat enfermé pendant 2-3 jours, le temps que l'oiseau apprenne à voler. Je vais faire bondir vos auditeurs. Le chat est un animal qui vit intouchable.
Non, c'est bon, ça sera censuré au montage du podcast.
Intouchable. Mais en période de reproduction, essayez de garder vos chats à l'intérieur des maisons ou vous mettez un collier avec une clochette, le bruit alerte les oiseaux. Le mieux, ça serait de lui mettre une cloche à vache.
Oui. Voilà, il ne pourrait pas bouger. Il pourrait pas bouger.
Moins de prédation.
je vois, oui. Ou des gants de boxe aussi.
Mais voilà, au printemps, essayez de garder vos chats à l'intérieur. Il y aura moins de dégâts sur la faune.
Alors justement, cette méconnaissance ou cette perte de connaissance qu'on a par rapport à la faune, etc., vous la compensez aussi en partie par des séances d'animation pédagogiques, voire même professionnelles. Ça fait partie des activités de votre association.
Moi, je dirais pas compenser. Je pense que ça fait complètement partie de l'objet et c'est d'ailleurs inscrit dans les statuts de l'association. Mmh. Le centre de soins intervient pour essayer de diminuer les impacts faits à la faune, mais Galaldia a aussi dans son ADN la volonté de sensibiliser le grand public à la faune sauvage. Oui. Les animations, on en fait de plein de formats différents et on va s'adapter en fonction des attentes et du public. Mmh. Ce qui est super, c'est qu'on travaille avec l'outil centre de soins, ce qui nous permet d'avoir des animations qui sont uniques sur le territoire, notamment parce qu'on peut animer des relâchés qui peuvent faire venir plusieurs centaines de personnes. On fait des relâchés qui sont aussi complètement gratuits, puisque l'idée c'est de pouvoir s'adresser au plus grand nombre, notamment donc je pense sur le sommet de l'Arzamendi pour le relâché de vautours qui fait chaque année venir aussi régulièrement des personnes.
Ah, c'est un spectacle.
Voilà. Et après on peut avoir des animations qui sont beaucoup plus ciblées en fonction du public ou de la thématique qu'on veut aborder.
Voilà. Alors je veux aussi que on parlait tout à l'heure de l'aspect scientifique, vous faites des relâchés avec des bagues, hein, parce que du coup c'est une manière aussi d'avoir une idée sur ce qui se passe, les animaux qui ont été sauvés, qu'est-ce qu'ils deviennent, où ils vont, il y a cet aspect aussi technique et intéressant.
Voilà, il y a certaines espèces qui vont être équipées avec des bagues muséum, il y en a qui vont être équipées avec des bagues muséum et des bagues Darwick, c'est bagues de couleur avec des gros chiffres, d'accord. Et certains qui vont avoir des balises satellites. Je relâche un gypaète barbu qu'on a soigné depuis 6 mois, équipé de balises satellites. Ça permet de voir si déjà les techniques de soins ont été efficaces et après de voir comment se comporte l'animal après sa réinsertion dans l'environnement. Oui. Là, à l'heure actuelle, on a 3 gypaètes barbus suivis par des balises satellites. Voilà. Et on va dire du moineau jusqu'au rapace et tout ça, sont tous bagués au Muséum d'Histoire Naturelle.
D'accord, très bien. On va faire déjà notre dernière petite pause et on se retrouve ensuite pour la dernière partie de cette émission. Et nous voilà de retour. On a bien compris en discutant au fur et à mesure de cette émission qu'on croyait des fois bien faire, on avait peut-être tort. Quels sont vos petits tips, vos petits conseils vraiment à nous qui aimons les animaux, qui aimerons les aider, mais on ne va peut-être pas faire ce qu'il faut ni comme il faut.
Si vous les aimez, gardez-les pas. Faut pas les garder chez soi. Alors, je comprends qu'une jeune chouette, c'est tout mignon, c'est tout en duvet et tout ça.
C'est trop beau.
Mais il y a tellement de gens qui gardent des animaux chez eux en s'improvisant soigneur. Donc ça va bien se passer pendant quelques jours et quand l'animal commence à mourir, c'est là qu'il nous l'emmène. Nous, plus vite on peut le prendre en charge, plus on a de chances de pouvoir sauver l'animal. Et je vais prendre l'exemple d'un vautour il y a quelques années. Il y a un monsieur, il a gardé un jeune vautour tombé du nid 6 mois dans son garage.
Ah oui.
Le vautour obéissait mieux que mon Terre-Neuve.
Ah oui.
C'est un animal qu'on ne peut pas relâcher. Je vais être clair avec tous les auditeurs et auditrices. Un animal imprégné ne peut pas être relâché dans la nature parce qu'il peut être potentiellement dangereux pour l'humain. L'imprégnation, c'est que l'animal n'a pas l'image de lui-même. Il pense être un humain. Donc, il peut l'attaquer pour défendre son territoire. Il peut l'attaquer pour la reproduction. Donc, nous, on a des process dans le soin pour éviter tout l'imprégnation. Gardez pas les animaux chez vous, c'est vraiment important. On perd beaucoup d'animaux dans les phases de soins ou certains qui ne peuvent pas être relâchés parce que trop habitués à l'homme.
Oui.
Et je vais être franc avec vous, la loi, on ne peut pas placer ces animaux. Un animal imprégné est un animal qui ne peut pas être relâché, qui ne peut pas être placé. Donc il est euthanasié par nos vétérinaires.
Ah oui, mince.
Parce que relâcher un vautour habitué à l'homme, c'est courir des risques d'accident.
Ouais, c'est ni bon, ni pour lui, ni pour nous. Quoi.
Voilà, moi, mon premier message, c'est ça. Tournez-vous sur des centres de soins. Il y a des professionnels partout en France. On est ouvert 7 jours sur 7, 365 jours de l'année. Si on répond pas tout de suite, c'est que le standard, il est en train d'exploser d'appels téléphoniques. Mais voilà, c'est mon conseil principal pour moi et Océane en aura sûrement d'autres.
Oui. Bien sûr.
Que la faune sauvage reste sauvage, ça me permet de rebondir. Stéphane parle d'appels. Galaldia, c'est plus de 6000 appels par an. Ce qui donne un peu une idée du volume. Donc désolé si on ne vous répond pas immédiatement, mais en fait, on n'est pas en train de se tourner les pouces. Tu demandais les conseils.
Oui.
Pour moi, l'idée, c'est et aussi pour le grand public de permettre à des structures comme Galaldia de continuer à être, à exister.
Oui.
Je rappellerai qu'on est une association avec tout ce que comporte l'association. On est reconnu d'intérêt général, tout ça.
J'espère bien.
On a besoin de soutien. Oui. Et pour moi, les deux manières de nous soutenir le plus, la première, c'est de prendre son adhésion à Egalalia. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'une association, elle est reconnue par les pouvoirs publics de par son nombre d'adhérents.
Ah, oui,
le nombre
vrai.
D'adhérents, oui. Ça représente le soutien de l'opinion publique.
Oui.
Et Egalalia se sert de ce soutien-là pour soutenir la cause de la biodiversité dans de nombreuses commissions, comme le Conseil de développement du Pays Basque, la SAFER, etc. On est là pour toujours agir en faveur de la biodiversité, et vos voix nous aident à peser dans ces combats. Et la deuxième chose, c'est qu'on est aussi, on travaille avec le vivant, donc on a une activité qui est fluctuante, que ce soit un arrivage massif de macareux, le printemps qui est un peu plus prévisible, mais on a des dépenses qui sont très aléatoires, mais qui sont, ça c'est certain, en constante augmentation de par le nombre d'animaux et de par l'inflation, de par le coût des médicaments, etc. Pour continuer à nous aider à soigner ces animaux, voilà, vous pouvez aussi faire un don. L'adhésion n'est pas mieux ou moins bien que le don. On a vraiment besoin des dons pour peser dans le débat et continuer à accompagner ces animaux.
Oui, alors...
Paloum, là on est dans les Landes. Si les gens veulent adhérer à une association landaise, il y a nos collègues de Paloum qui ont les mêmes difficultés que nous, quoi.
Ouais, on en parlera sûrement demain avec notre invité. C'est le centre de biodiversité Jean Rostand, hein, qui viennent, ils sont voisins et ils doivent bien les connaître, à mon avis.
Ils travaillent souvent ensemble, ouais.
Donc c'est certainement un sujet qu'on abordera. Oui, alors je mettrai bien entendu sur le podcast, le lien vers votre site. Il y a aussi, j'ai découvert aussi un formulaire en ligne qui permet de faire du recensement participatif. Ça aussi, c'est la science auquel tout le monde peut participer. Alors, on en parlait aux antennes, il y a ça pour les papillons, il y a ça pour les oiseaux, etc. Donc, les gens peuvent aussi aller dire, tiens, j'ai vu telle espèce à tel endroit, la reconnaître.
Voilà, toute information est intéressante parce que voilà, on soigne des animaux, mais en même temps, savoir... une observation d'un percnoptère d'Égypte ou d'une autre espèce, c'est toujours intéressant. Et nous, ça nous permet de savoir un petit peu, parce qu'on est souvent enfermé dans nos infirmeries quand même, quelle espèce est dans le biotope. Et quand on a besoin de relâcher des animaux, on peut cibler un peu certains secteurs aussi, quoi.
Oui.
Donc... je reviens sur les animations ou les formations. Egalalia, on fait des formations pour nos bénévoles, pour le rapatriement et tout ça. Et Céline et moi-même, on est intervenants à l'école vétérinaire de Toulouse pour une nouvelle formation de soigneurs animaliers en centre de soins. Mmh. C'est une première en Europe. Donc c'est au sein de l'école vétérinaire de Toulouse. Et c'est une école qui prépare les nouvelles générations à prendre notre place, parce que on commence à fatiguer quand même.
Je comprends bien,
ça pique. On attend d'avoir une relève bien motivée et qui ait une compréhension aussi des enjeux de la société, parce que c'est bien beau de défendre la biodiversité, je l'entends, mais il faut prendre aussi tout l'ensemble des acteurs.
Bien sûr. Ouais.
Donc voilà. Et les inscriptions sont ouvertes à partir du mois de juin et c'est diplômant et reconnu par l'État.
D'accord.
Donc on est assez fiers de ça et ça a été mis en place par le réseau des centres de soins en France.
Très bien. Alors je me posais la question parce que ça me semble tellement évident votre utilité au quotidien par rapport à ce qui se passe sur le territoire, etc. Mais s'il n'y avait pas vous, qui est-ce qui ferait ce que vous faites ?
Personne.
Voilà, il n'y a pas d'institution officielle d'État qui gère ce genre de choses.
Non, il n'y a que les associations.
C'est encore une fois les associations qui font le boulot. Hein
oui.
Mais les associations font tourner la France, quelle soit.
Ça... Alors là,
milieu associatif.
C'est la conversation que j'ai avec tous les invités ici, tous les jours.
Si on retire les associations en France, aussi bien humanitaires, sociales, environnementales, il ne reste plus grand-chose quand même. On compense les manquements de l'État, tout simplement, sur certains sujets.
C'est pour ça que les subventions, c'est pas forcément un cadeau, c'est aussi l'État qui reconnaît de fait qu'il vous délègue des pouvoirs, vous donne un petit peu de moyens de faire une chose sur le territoire que lui ne prend pas en charge directement.
Hein. Alors, pour être clair, le ministère de l'Environnement ne nous donne rien du tout au centre de soins.
Hein. Ouais.
C'est quand même la région Nouvelle-Aquitaine qui soutient tous les centres de soins, ou les conseils départementaux, les agglos.
Voilà.
Et sans leur soutien, on ne serait pas là. Il n'y aurait aucun centre de soins en France qui serait là si on n'avait pas le soutien.
Et voilà.
locaux ou régionaux. Mais l'État, on n'a plus de ministère de l'Environnement à l'heure actuelle.
Voilà. Bon, ben, nos impôts locaux peuvent servir aussi à ça. C'est peut-être nous remonter le moral quand, au moment où on les voit partir. Voilà.
Et on y fait attention.
Oui, oui. Moi, je vous fais confiance. Et bien, j'en profite pour faire un petit coucou à Tristan, grâce à qui cette émission a lieu aujourd'hui. Parce que,
merci.
Hein,
il s'occupe des animaux chez vous. Hein, il est en stage. Et,
il est éco-volontaire et stagiaire, donc un bénévole longue durée. Et en plus, en stage, puisque Galaldia, c'est aussi éduquer et voilà, permettre aux jeunes d'apprendre le métier, comme le disait Stéphane. C'est aussi dans nos statuts, ça nous tient très à cœur.
C'est ça. Mais merci beaucoup tous les deux d'être venus. Bon, on aurait pu passer, je crois, 2 heures. Hein, je crois.
On peut continuer là. Voilà. Voilà. Merci à vous, merci à vos auditeurs.
Pour notre émission, on verra. Merci beaucoup. Au revoir à tous les deux. Au revoir.
Merci.
Au revoir.